En vrai, l'évangile Tyrès-Sidon, c'est le Liban. Vous savez, la Palestine, Tyrès-Sidon, c'est là. Et les villes de Bethsaïde et Chorazin, c'était sur le lac de Galilée. Capharnaüm aussi. Alors, quand vous allez à Bethsaïde et quand vous allez à Chorazin, on fait des fouilles, c'est des ruines, il n'y a plus rien. Ces villes sont complètement anéanties. Elles étaient plus importantes que Tibériade. Tibériade, c'est une ville florissante, presque pas comme Montpellier, mais... Voilà. Et Capharnaüm, c'est des endroits où séjournent des morts, c'est des ruines, il n'y a plus une seule maison habitée. C'est une ruine totale. Quand Jésus a prononcé des paroles pour dire à ces cités qu'il n'y aurait plus rien, effectivement, quand on y va, on voit que ces villes n'existent plus. La grâce de Dieu concerne finalement pas seulement les personnes humaines, mais aussi les groupes, les communautés. On peut très bien être béni de Dieu. Je vous en prie, Sœur Carmen, c'est merveilleux de savoir que vous êtes là. Mm-hmm. C'est une grâce.
Oui, c'est comme... une grâce.
C'est une joie, en tout cas, de vous voir. Alors là, une personne, Marie, par exemple, ou Carmen, sont des gens qui sont bénis. C'est ça la bénédiction. Plus on participe à la croix, plus on est broyé, comme disait le psaume de ce matin, dans ses os, plus on est béni. C'est ça qui est merveilleux. Tu as broyé tous mes os. C'est pour ça. Alors, on est béni. Les communautés, les familles, une famille entière peut être bénie. Il y a des familles qui sont bénies, des communautés qui sont bénies, des villes qui sont bénies, des pays qui sont bénis. Et puis, il y a des générations aussi qui sont bénies. Mais à l'inverse aussi, il y a la malédiction. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'être maudit en sa personne, dans sa famille, dans sa communauté, dans sa cité, dans son pays et dans l'ensemble de la solidarité mondiale. Vous voyez, les 6 jours de la bénédiction et les 6 jours de la disparition aussi. Tout ce qui est objet de bénédiction est quelque chose de grand, mais tout ce qui est objet de malédiction, il n'y a rien qui soit semé qui ne doive avoir sa rétribution. Ah, bien sûr, la malédiction à côté de la bénédiction, c'est rien. C'est vrai, ça. C'est vrai. Sur le plan individuel, sur le plan de la personne, la bénédiction se renouvelle sur 1000 générations. Mais sur tous les autres plans, non, c'est à égalité. Et tout ce qui est objet de malédiction est, comment dirais-je, doit disparaître. Voilà, c'est pour ça que quelque part, quand on va en Israël, enfin en Palestine, pas en Israël, mais en Terre Sainte, Liban, ça reste une terre sainte que Jésus a traversée des 5 fois, je crois. Hein, donc on voit à la terre, il y a des bénédictions de Dieu qui demeurent pour toujours. Mais les communautés et les villages, c'est pas pareil. C'est impressionnant de voir la destruction des 3 villes dont il a parlé. Il n'y a plus rien. Voilà, donc nous faisons, je dis pas ça pour vous déprimer, hein. j'espère qu'on est béni par la grâce, mais grâce à Dieu, notre famille, on a notre famille, elle appartient pas à une terre, à la terre maudite dans laquelle nous sommes. Notre cité, c'est pareil. Donc on a une famille, on a une cité. Et le monde dans lequel nous sommes est soumis aux méchaumes. Depuis quelques années, mais il n'y a pas longtemps, le méchaume s'est installé, le Chicoutsi méchaumem. Les Chicoutsimers méchaumémistes ont pris la possession de l'ensemble de l'humanité. Alors le méchaume s'est installé. Voilà. Le méchaume, c'est lourd, le méchaume. C'est très très lourd. C'est l'humanité d'aujourd'hui doit disparaître. Elle doit disparaître. Il n'y a aucun espoir. Notre génération doit disparaître totalement. Le méchaume, c'est très grave. On peut dire, ouais, bon, on s'y habitue, on passe quand même. Il y a quelques-uns, peut-être quelques-uns qui passent une poignée, voilà, parce que, bon, pour briser l'opacité invincible du méchaume, il faut une bénédiction qui passe la nuit des temps. Il faut une bénédiction, il faut une grâce qui dépasse le monde ancien. Le monde ancien, donc, est condamné. Avec le méchant, et le monde ancien disparaît. C'est pour ça qu'on est attaché à rien. Pourquoi mettre une chaise ici, hein? Ceux qui sont sourds, il ne faut pas qu'ils se mettent au fond. Une chaise. C'est toujours pareil. Les sourds, on les voit toujours le plus loin possible. Parce qu'on est sourd, il faut se mettre tout près. Est-ce qu'il y a un autre sourd? Et on est dans ce contexte, on est dans un contexte qui est dur quand même. C'est un contexte, on est dans un courant contraire. Bon, ça, j'ai pas besoin de faire des dessins là-dessus, hein, pas besoin de faire des dessins. On est dans un courant contraire. Alors on dit, ah, ça c'est bien, oui, si, je vois, lui, il fait des progrès, quand même, il y a quand même ici une. Tiens, une conversion ici. Tiens, il y a un groupe qui se forme, tout de même, il y a des adorations et tout ça. Est-ce que tout ça, c'est... tiens, il y a... Le pape a été en Allemagne, le pape a été en Espagne. Est-ce qu'il y a des progrès? Il y a des progrès possibles. Alors, évidemment, c'est ça la difficulté de la difficulté de l'Église, du christianisme, enfin des disciples de Jésus aujourd'hui. C'est qu'il ne peut qu'y avoir des progrès sur le plan personnel. Sur le plan personnel, c'est impossible qu'il n'y ait pas de progrès. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. Si par exemple on a laissé la grâce sanctifiante, le fruit des sacrements, pendant 10 ans, et bien cette grâce sanctifiante, et bien on l'a mis au congélateur. Et bien on la décongèle et elle reprend au degré d'intensité divin, surnaturel, où on l'avait laissé. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. C'est beau ça, de savoir ça. Ça n'existe pas. Là, par exemple, un prêtre qui célèbre la messe, comme ben, moi, vous allez me dire, donc la messe suivante peut être célébrée dans une grâce de sainteté beaucoup plus grande que la précédente. C'est vrai, dans la grâce sanctifiante, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de surplace. On ne fait pas de surplace en disant, ah, tiens, lui, il célèbre la messe aussi bien qu'il y a 40 ans. Pareil. C'est, ah bon, ça, c'est inquiétant. Très inquiétant. Alors, vous pouvez dire extérieurement, oui, il la célèbre avec autant. C'est Saint Jean Climac qui dit, un chrétien, un moine, qui a autant de ferveur quand il est vieux que de ferveur quand il vient de se convertir. Ça, c'est un saint. Oui, pourquoi? Parce que pour que la grâce sanctifiante augmente, il faut qu'il y ait de la ferveur. Donc si vous avez la même ferveur, la grâce, elle, sanctifiante, ne cesse d'augmenter. Si tu aimes et tu pries Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute la puissance d'accueil et de don dans les charges de l'accueil et du don, dans le tourbillon, le théâtre prodigieux, de la communion eucharistique, ou l'immolation du Verbe éternel de Dieu sur la croix, dans tous les temps, tous les lieux, traverse toutes les chambres nuptiales et sanctifiant du Saint des Saints de ton corps originel, de ton corps actuel, de ton corps accompli. Si tu le fais avec toutes tes forces de l'Église, alors à ce moment-là, ah, oui, le lendemain, tu as une grâce sanctifiante plus forte. Sainteté plus grande. Pourquoi? Parce que tu as mis un maximum de ton amour, tu as mis un maximum de communion. Alors forcément, le Saint-Esprit a eu le temps de souffler dans ton âme. Alors ton âme a augmenté de grâce. C'est beau ça. Ouais, mais du coup, j'ai plus de problèmes. Ben oui, parce que du coup, comme ton âme prend plus de place, le démon n'est pas content. Il dit, oh, tu prends plus de place là. Alors du coup, on te fait un petit peu plus de problèmes. T'as plus de problèmes. C'est pas grave d'avoir des problèmes. Des problèmes, c'est bon ça. C'est pour ça que les gens n'aiment pas avoir la grâce qui augmente. Parce que ma grâce augmente, mais qu'est-ce que je déguste? Donc n'augmentons pas la grâce, allons vite dans une autre église où la grâce n'augmente pas. Mettons bien la viande fraîche au congélateur. La grâce sanctifiante et la vie chrétienne, c'est de faire en sorte que la grâce augmente. C'est ça, il faut que la grâce augmente. Je trouve ça, vous voyez, ça aurait été en l'an 2000, quand j'étais par exemple du côté de Perpignan, là-bas, j'aurais pas dit ça, parce que le Shikut Sim Meshamem n'avait pas été établi. Maintenant, ça y est, Shikut Sim Meshamem a été inscrit. Le peuple de Dieu, le peuple des hommes, dans l'unanimité, officiellement, unanimement, a déclaré à Dieu dans sa paternité vivante, unanimement, qu'il préférait rester sur la terre en l'éventrant, en abominant sa présence paternelle créatrice. C'est une décision officielle, publique, unanime, du peuple de Dieu. Pas seulement des francs-maçons, des chrétiens de toutes les religions, de toutes les églises, y compris l'église catholique. C'est une décision unanime, officielle, contre la paternité vivante de Dieu. Ça paraissait impossible quand on lisait l'Écriture qu'un jour le peuple de Dieu tout entier puisse faire une chose pareille. Bon, comprenez que le peuple des hommes rempli d'athéisme, de matérialisme, le fasse à la limite. Que Satan puisse porter Pierre, c'est normal. Vous voyez? Mais que ce soit comme ça, que ce soit passé, c'est très, 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 c'est bouleversant. Du côté des hommes, de notre côté à nous, on dit, bon, on n'a rien vu qui soit si spectaculaire. C'est le cours du temps. C'est normal. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça qu'on dit oui. Voilà. Mais du côté du ciel, il n'y a pas eu d'événement aussi important depuis la chute du monde angélique. Avant la création du monde, il n'existe pas. Du côté de Dieu, quand c'est la paternité de Dieu qui est abominée, c'est comme ça, du dedans d'elle-même, directement, sans aucun voile, sans aucun intermédiaire, universellement. C'est quelque chose de terrible. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, c'est vrai que Dieu est bon. Alors du coup, il ne renonce pas à sa bénédiction. Non, ce n'est pas sa bénédiction individuelle, mais la bénédiction collective, c'est même pas la peine d'y penser. Allez voir à Corosheim, allez voir à Capharnaüm, allez voir à Bethsaïde, vous allez voir. C'est même pas la peine d'y penser. N'essayez pas d'obtenir une bénédiction pour votre maison. Surtout si c'est un humain. La maison ne sera pas bénie. Là, je peux vous le dire, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, vous pourrez faire 800 messes, 700 Jéricho. Neuf mois de neuvaine à San Damiano. Mais personnellement, et nous faisons partie d'une autre cité. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Nous appartenons à une autre cité, une autre famille, et un autre monde, une autre race aussi. La matière elle-même se tourne. Dans son aspect le plus élémentaire, la matière elle-même se tourne vers ce monde nouveau. Même les êtres les plus inanimés comme la matière, les neutrinos, vous voyez, d'accord, les tachyons, est en train de se tourner vers le monde nouveau. La création tout entière se montre elle-même pressée. Vous savez, des cyclotrons, hein. On en fait déjà depuis longtemps. Moi, quand j'étais petit, on parlait de cyclotron. Mon père travaillait dans un centre de recherche, il y avait un cyclotron. J'avais 15 ans. L'accélérateur de particules, ça existe. Mais là, comme par hasard, là c'est maintenant. Là. En fait, tu envoies un accélérateur de particules à Genève, tu l'envoies vers Monte Carri, là-bas, en Italie. Voilà. Qui envoie aussi un accès dans un tunnel rectiligne, comme ça, tout petit, minuscule. Parce que ça ne prend pas beaucoup de place, hein, des neutrinos envoyés à la vitesse de la lumière. Bon, et ils se rejoignent. Ils se rejoignent ici. Et alors, c'est sur un canal qui fait 738 km. Ils n'avaient pas calculé. Hein. 738, c'est quand même un chiffre. Voilà. Et ils l'ont construit comme ça, parce qu'un jour, la nuit, on s'est mis comme ça pendant 40 jours à consacrer toutes les particules élémentaires qui seraient sorties des cyclotrons de Genève, et d'ailleurs, on les a consacrées pour le monde nouveau. On les a dit, on a pris autorité sur toutes ces particules qui sortiraient, on a pris autorité 40 jours de suite. individuellement. On n'a pas fait collectivement. Enfin, c'est individuellement, mais quand même des centaines de personnes qui l'ont fait. Hein. Mais quand même, on l'a fait. 40 jours de suite. On l'a consacré. Puis on a eu la confirmation que le ciel dit merci de nous avoir donné. Heureusement que vous l'avez fait. Et alors, du coup, les neutrinos, ils appartiennent au monde nouveau. Alors, ils viennent se rencontrer ici, voilà, dans la ligne de 738 mètres de. 738 kilomètres. De 738 kilomètres. 738, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'altitude du Golgotha. Et l'altitude aussi de l'horizon, de l'union transformante, c'est l'altitude du mont Carmel. C'est aussi l'altitude du saint des saints, du temple, du Kadosh Akadesh, du Bet Amektash, qui symbolise l'origine du corps de l'homme, le corps humain dans son origine. Donc vous avez le corps humain dans son origine, vous avez l'union transformante du Carmel, et vous avez l'union hypostatique déchirée de Jésus. Vous rassemblez les trois en un, et vous avez le tunnel. C'est l'oraison, ça, je vous ai toujours dit. Quand vous, si vous voulez recevoir la bénédiction et l'augmentation de la grâce, vous mettez dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, 738 mètres, avec toute la puissance de votre oui dans votre corps originel qui vient d'être créé par Dieu, et celle de l'Immaculée Conception, pour vous en rappeler davantage. Voilà, c'est le corps, le Kadosh Akadesh du Bet HaMikdash. Et en faisant oraison. Donc allons à la cinquième demeure, 738 mètres, c'est le Mont Carmel. Les trois ensemble, et ça y est, vous êtes dans le monde nouveau. Alors les particules se sont précipitées comme ça, vous vous entendez maintenant? Ah, c'est beau ça, c'est le miracle des trois éléments. Non, mais je peux pas, je suis malade, et c'est le méchaume, c'est le méchaume, c'est le méchaume, c'est un secret. Tu vois, je peux pas, quand c'est un secret, je peux pas faire autrement. Alors, même s'il y a des sourds, tant pis, ils prendront l'ampli. Alors, les particules, c'est comme ça, normalement, elles devaient se rencontrer 738 km au bout de 2 minutes. Et 17 secondes. Patatras, elles sont rencontrées au bout de 2 minutes et 22 secondes de moins. Mais ça veut dire que la très grosse partie de la matière, pas petite partie, minuscule, infinitésimale partie, une très grosse partie de la matière circule, hein, 22 secondes de moins sur 738 km. C'est énorme. Plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi, que ça circule plus vite que la vitesse de la lumière? Vous vous rendez compte, quelque chose de matériel, une matière, prenez une boule, une petite boule comme ça, elle va plus vite que la vitesse de la lumière. Si vous voyez une boule qui se balade comme ça sous vos yeux, c'est qu'elle va moins vite que la vitesse de la lumière, puisque vous la voyez. Vous tirez, la balle va très vite, mais vous, sur les films, quelquefois, on fait ralenti, et on voit la boule, la balle qui passe. Pourquoi? Parce que ça va moins vite que la vitesse de la lumière. Du coup, le film peut décomposer en centièmes de seconde. Alors, on voit la balle. Mais si la boule, elle va à la même vitesse de la lumière, il n'y a aucune décomposition possible, on ne la voit plus. Mais on peut la repérer parce qu'on voit qu'elle a troué, par exemple, le mur. Donc un neutrino qui va à la vitesse de la lumière, on le voit très bien. Très bien. Mais maintenant, une boule qui va plus vite que la vitesse de la lumière, alors ça y est, j'ai passé le... Ici, plus vite. Là, moins vite, là, je la vois. Ici, je vois, il y a un trou. Et ici, eh ben, je vois même plus de trou. Mais par contre, puisqu'elle va plus vite que la vitesse de la lumière, ben, elle ne peut pas reculer dans le temps. On ne peut pas reculer dans le temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, aussitôt qu'elle est là, si elle va et aller 22 secondes de moins que la vitesse de la lumière, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait pendant? Qu'est-ce qu'elle fait? Et aussitôt qu'elle est là, elle va de l'autre côté du fond, elle va de l'autre côté de la galaxie, elle revient. Tac, 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 en l'espace d'un centième de seconde, Elle a traversé tous les espaces de l'univers. Elle appartient à tous les espaces de l'univers. Tous les espaces. Elle a traversé celui qui est à ma droite, celui qui est à ma gauche. Elle a traversé Tombouctou. Elle a traversé les démons qui sont au fin fond des galaxies. Elle a traversé... C'est une matière qui appartient à un temps non spatial ou à un espace intemporel. Là, je viens de vous dire l'espace intemporel, mais aussi un temps non spatial. Ça veut dire qu'elle rentre aussi dans l'ouverture de l'anastase. Ce passage que le corps ressuscité de Jésus a opéré en rentrant, en faisant passer sa résurrection de l'exercice à l'anastasis. Elle rentre donc aussi, et parce qu'elle en fait partie, de cette matière qu'il y a avant la création de l'univers et qui est portée par le Bereshit. Elle est la preuve, elle est le messager de la création de Dieu. Que la création de Dieu précède le temps. Elle en est le témoin. Elle est aussi le témoin de cette possibilité dans le corps de l'homme, dans le corps de la création de Dieu, de nous transporter dans un monde nouveau, dans l'au-delà de l'exercice, dans l'au-delà du feu qui clôture les espaces limités de notre univers. Et pour rentrer dans le monde, bien sûr, intemporel et non spatial de la résurrection. Et de revenir jusqu'à nous, emportant-nous, si nous nous laissons transporter par la grâce, par l'augmentation de la grâce sanctifiante, jusque dans la fécondité corporelle de Jésus, Marie, Joseph, notre sainte famille, si, de faire l'aller-retour, de faire qu'il y ait le flux et le reflux de la Jérusalem céleste à la Jérusalem spirituelle que nous sommes, et que ce flux et ce reflux permettent justement l'établissement dans notre vie sur la terre du royaume de Dieu venu d'en haut, du corps spirituel venu d'en haut, de l'indivisibilité de la création dans le fruit eucharistique de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle en une seule Jérusalem. Et c'est ainsi que nous avons une nouvelle cité. Un nouveau corps venu d'en haut, un nouveau cœur, une nouvelle grâce, une nouvelle liberté, un monde nouveau. L'heure du monde nouveau est arrivée. L'heure de la destruction du monde ancien est arrivée. C'est plus qu'une trompette de l'Apocalypse qui a sonné il y a 4 jours. C'est une trompette de l'Apocalypse qui a sonné. Ça, c'est une trompette de l'Apocalypse. Là, cette terre-là, ce corps spirituel venu d'en haut, le dragon pourra faire tout ce qu'il veut, toutes les malédictions de la terre, de l'humanité, des cités, des familles, pourra faire tout ce qu'il veut, le dragon. Tout. Il a toutes les permissions. Toutes les permissions. Mais pas contre... Et parce que la terre va s'ouvrir, les torrents de haine, de vie terrestre qui sort de la gueule du dragon va être absorbé par le corps spirituel des chrétiens. Et la malédiction du méchant, elle va être absorbée, je crois que c'est ça qui est marqué dans l'Apocalypse, hein. Par la terre. La terre va s'ouvrir. Si dans notre corps spirituel, dans la matière la plus élémentaire, notre corps spirituel venu d'en haut, si nous rentrons dans la cinquième demeure, l'union transformante, dans l'union hypostatique déchirée, on peut dire super tachyonique, sur tachyonique, sur anastasique de notre vie, à ce moment-là, bien sûr, que nous pouvons, à chaque sacrement, à chaque fruit de sacrement, réopérer cette ouverture gigantesque qui fait que cette ouverture, ben, l'univers tout entier, tous les temps, tous les lieux, mais aussi toutes les durées de la résurrection, pénètrent et sortent librement pour aller dans l'intériorité lumineuse, vivante, splendide, souveraine, pacifique du Verbe de Dieu, dans le Père. À ce moment-là, c'est sûr, les torrents du dragon, si grands qu'ils soient, ne se limitent à leur espace de puissance, à l'univers créé par Dieu dans le temps. Alors c'est absorbé. Et ce sera absorbé que par les chrétiens de la terre. Mais, comme dit l'Apocalypse, c'est une cité qui échappe parce qu'elle est emportée dans le désert. Elle est emportée dans le désert. Donc on est vraiment emporté dans le monde nouveau de l'union transformante. C'est pas le monde nouveau de la louange, c'est pas le monde nouveau de la méditation, c'est pas le monde nouveau de la théologie, c'est pas le monde nouveau, non, c'est le monde nouveau du silence, de l'union transformante. C'est la cinquième demeure. Tout le reste doit disparaître et il faut qu'on s'habitue à ça, parce que c'est pas comme on me disait une fois, c'était en 2001, on me disait bon d'accord, ça va disparaître, d'accord, dans 2 millénaires, dans 2000 ans, dans 2 siècles. C'est un an, deux mois. Je me rappelle ça. Quelqu'un qui disait ça sur les toits de New York, hein, le 5 juillet. Non, dans 2 mois. Et 2 mois après, jour pour jour. Pas dans 2 millénaires. Hein. Alors, nous on est là pourquoi ? Ben, on est là parce que on a dit voilà. C'est un tritium, on fait un tritium avec les anges, avec le Saint-Michel Archange, Saint-Gabriel, Raphaël, les anges de la face, tous les anges glorieux. Ce qu'il faut, c'est s'habituer à ça, mais commencer toujours par l'oraison. Une fois qu'on est établi dans la cinquième demeure, une fois qu'on est à la cinquième demeure, c'est facile à repérer quand vous êtes dans la cinquième demeure. Il faut pour ça être confessé, confession sacramentelle, catholique, Saint-Père, Saint-Maman, communion. Je reprends tous les fruits des sacrements. Du coup, je suis l'enfant de Dieu, je peux recevoir tous les fruits réels, hein, des sacrements de toute l'Église apostolique. Du coup, je peux m'y engloutir et attendre que tous ces fruits des sacrements de l'Église catholique, c'est-à-dire ben, la miséricorde tonne du Père dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, dans le corps spirituel de tous ses élus, transforme tout l'univers à travers sa présence en moi, dans mon corps, et ceci silencieusement. Je vais laisser faire ça pendant 3 secondes. C'est pas assez. Normalement, il faut 3 jours. 3 jours pour que la transformation soit totale. 3 jours suspendus comme ça. C'est comme ça, c'est pas rien. Bon, alors. On fait oraison. Il y a des gens qui font oraison juste 1 demi-heure par jour. C'est une blague. Oraison, une demi-heure par jour. Moi, je préfère lire la Bible, moi, je préfère louer. Je préfère méditer, penser. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre service? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre service? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et dès que je trouve avec des autres, qu'est-ce que je pourrais faire pour remplir le silence de mon bruit? Un bruit très intéressant, ce que je raconte. C'est passionnant. C'est très important, ce que je dis, puisque je parle de Jésus. Mais l'oraison, le Verbe de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'après la doctrine des apôtres, c'est à l'intérieur de Dieu la seule personne qui soit dans une passivité substantielle d'amour. Donc il n'y a pas de torrent de parole dans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune parole. C'est une passivité substantielle. C'est l'amour substantiellement passif en Dieu. C'est une spiration substantiellement passive. Ah mais moi, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Ah, c'est Saint-Esprit. C'est au contraire, c'est l'activité substantiellement satanique de Lucifer. Le jour du jugement, on va le voir, ça. On aura à rendre compte de toutes nos paroles inutiles. Chacune de nos paroles inutiles. Bon, bref, donc on fait oraison. C'est pour ça que vous avez remarqué que je faisais un effort terrible pour n'avoir aucune parole inutile. Bon. J'ai dit, tu fais oraison. Dans l'union transformante, faut pas l'oublier, dans l'union transformante, c'est pas le silence qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu est libre, Jésus est libre. Son union hypostatique silencieuse, déchirée, dans son corps anéanti par la mort et silencieux puisqu'il est mort. On n'entend même pas son souffle puisqu'il est mort. Dans ce silence-là, je laisse... d'union hypostatique de Jésus, envahir l'absence de parole inutile qui est en moi. Et je laisse, le souffle du Saint-Esprit, sa passivité substantielle d'amour éternel, envahir le temps de la mort du Christ. Et la transformation du monde se fait à travers ça, puisque c'est akionique. Si je reste comme ça pendant 3 jours et demi, c'est le monde entier qui est transformé par une humanité tout entière. Une humanité tout entière, parce que moi je suis une humanité tout entière, à moi tout seul. Rendez compte. C'est la force, vous voyez, de la prise d'autorité que nous faisons la nuit, c'est très fort. Si c'est dans l'oraison, si c'est dans l'oraison, c'est très 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 fort. Et on a accès, forcément, ayant accès à l'anastase, ayant accès au monde de l'indivisibilité du corps spirituel de Jésus, de Marie, de Joseph, de mon corps spirituel inscrit dans le livre de vie, du corps spirituel qui va et vient de mon corps originel dans le silence de la création. Alors le visage... du Père s'inscrit dans toutes les éléments et parcellaires de l'univers tout entier. Petit à petit, le visage du Père va pouvoir se rendre visible. Dans la lumière de gloire, et le monde angélique lui-même lui donne une amplitude qui n'a aucune limite. Donc il va bien au-delà du monde de la résurrection. Le monde de la résurrection est plus étroit que l'espace intérieur du monde angélique. Il ne faut jamais oublier ça. Jésus l'a dit hier dans l'Évangile. Au-dessus du Fils de l'homme. Les anges qui montent et qui descendent. l'intériorité lumineuse, amoureuse, substantielle, concrète de chaque ange est une intériorité qui n'a aucune limite. Même les espaces de la résurrection sont limités. Moi, du moment où je peux participer un jour à la résurrection, ça me suffit. Ah bon ? C'est pas Dieu qui t'intéresse, c'est la résurrection pour toi. Hein? Mais tu sais, les damnés, ils ressusciteront aussi. Ils auront la résurrection, mais pas Dieu. Alors si tu veux la résurrection pour être parmi les ressuscités, et que Dieu ça t'intéresse pas, ben, tu auras la résurrection, mais tu n'auras pas Dieu. Les gens pour qui la vie chrétienne, c'est pouvoir vivre de la résurrection. Je m'excuse. Les damnés vivront de la résurrection aussi. Leur corps ressuscitera. Avec des propriétés extraordinaires. Donc ce n'est pas la résurrection qu'on cherche. Nous on cherche Jésus crucifié. Parce que dans Jésus crucifié, il y a Dieu. C'est Dieu que nous aimons. C'est pour ça que vous avez lu l'épître là, que tu as lu. Il ne faut pas se poser en ennemi de la croix du Christ. Et Jésus crucifié, ça ne se trouve que dans la substance transsubstantiée, transverbérante de l'union apostatique déchirée des sacrements. Ouf, en voilà des mots, mon père en voilà des mots que je ne comprends pas. Ben forcément, hein, puisqu'ils ne sont pas protestants. Je ne comprends pas, puisqu'ils ne sont pas hérétiques. Moi, je ne comprends que l'hérésie. Mais la vérité enseignée par les apôtres depuis 2000 ans, je n'ai jamais entendu parler. Ah. Tant mieux. On se connaît que la Bible. Ah oui ? Mais lisez la Bible, vous verrez que quand Satan veut tenter Jésus lui-même, il ne prend que la Bible. Il n'y a pas une seule parole qui vient pas de la Bible. Il ne prend que la Bible, il la connaît par cœur. Et saint Albert le Grand disait que l'Antichrist serait l'homme de toutes les générations de la terre qui connaît le mieux la Bible. Celui qui a une connaissance de la Bible la meilleure de toutes les générations humaines, ce sera l'Antichrist. Alors c'est donc par la connaissance de la Bible qui donne le salut. Ça peut te permettre d'avoir des opérations de puissance. Mais l'union transformante, l'immaculée conception de la grâce, la plénitude de la grâce reçue, mon papa, première personne de la Très Sainte Trinité, mon papa, dit Jésus à travers toi. Là, c'est autre chose. Surtout si vous avez une mauvaise traduction. Parce qu'à la limite, si j'étais le pape, moi je dirais, ne sont autorisés à lire la Bible sur la terre que les hommes qui la lisent dans le texte original en hébreu. Sinon, interdiction de lire la Bible. Ah oui, mais je comprends pas. Ah, parce que c'est ce que tu comprends qui compte. Ou bien c'est ce que la doctrine infaillible venue d'en haut, du monde céleste et angélique, et du monde glorieux de l'humanité glorifiée comprend. La Bible se comprend que dans la lumière d'en haut. Pas de la lumière venant des hommes. Aucune parole de l'Écriture n'est objet d'interprétation personnelle. Aucune. Épître de Saint-Pierre, chapitre 3. Aucune. Parce que c'est d'en haut qu'ils en parlaient. Donc tous ceux qui disent ah, voilà, moi j'ai l'interprétation. Non. C'est le Verbe de Dieu qui a donné l'interprétation juste, qui qui la soutient, qui l'amplifie, etc. Elle vient d'en haut, l'interprétation. Elle est infaillible. Pas d'infaillibilité, pas de Bible. Tu supprimes l'infaillibilité, tu supprimes la Bible. Parce que si tu supprimes dans ta lumière à travers laquelle elle devient une nourriture céleste. Et du coup, ça devient une nourriture pour Satan. Puisque tu en enlèves la lumière. La ruse. Le serpent était un animal le plus rusé de tous les animaux du jardin. Comment ? Mais Dieu n'a pas créé cet arbre pour rien quand même. Hein ? C'est la vie de Dieu. C'est bon, c'est bien, c'est agréable, c'est savoureux. Ça nous rapproche de Dieu. Vous aviez mal interprété les paroles de Dieu. Vous ne connaissiez pas Dieu. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu n'est pas comme vous croyez. Dieu n'a pas fait ça pour vous tromper quand même. Dieu n'a pas fait ça pour vous tromper. Il fait ça pour que vous, le manger que vous avez rapproché de lui, vous soyez comme lui, avec lui. Mais c'est en plus, c'est agréable, vous verrez. Comment vous avez fait pour interpréter comme ça Dieu? Mais Dieu n'est pas méchant quand même. Mais Dieu est bon. Il vous a pas mis ça pour que vous ne le mangiez pas, pour vous tromper. Vous n'avez pas. Ah, c'est vrai, ah, je me suis trompé sur Dieu. Bon, ben, je prends. Il était rusé, hein. Il a pris la parole de Dieu, il n'a pas bougé, il n'a pas changé un mot de la parole de Dieu. Pas un mot. Quelle différence entre Ève et l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, elle ne cherche pas à comprendre. Elle vient de Jésus crucifié. Elle vient de Jésus crucifié. C'est un concentré tachyonique de l'union hypostatique déchirée de Jésus sur la croix. C'est un concentré tachyonique. Tous les temps et tous les lieux. Elle est la preuve que Jésus sur la croix, quand il est mort, c'est Dieu lui-même. Alors le démon, il peut venir. L'Immaculée Conception est entièrement unie à Jésus crucifié, depuis le début. Quand elle a été Immaculée Conception, dans son oui, 9 mois avant sa naissance à Marie. Vous croyez quoi? Nous, quelquefois, on dit, dans mon oui originel, j'arrive à faire mémoire, comme dit saint Augustin, de mon oui originel, de mon innocence divine originelle, sa plénitude de oui, de lumière. Je peux retrouver cet état de mon identité spirituelle, l'état pur, avant que je n'ai fini par dégrader un peu seulement. Par le péché originel. Pas complètement, heureusement. Mais un peu. Mais Marie aussi, elle était dans la plénitude de lumière, de lucidité, de liberté spirituelle, de plénitude de grâce reçue, 9 mois avant la naissance. Donc elle savait très bien qu'elle venait de l'union hypostatique déchirée de Jésus. Elle le savait. Hein. On n'est pas né dans l'obscurité. On a été conçu par Dieu dans la lumière. Donc l'Immaculée Conception, dès que le démon s'approche, elle est immédiatement unie dans l'au-delà de son unité, avec l'union hypostatique déchirée de Jésus. Elle est toujours dans l'au-delà de l'unité des deux. dans l'au-delà de l'idée. Ève, elle s'est restée toute seule avec le témoin. Elle s'est pas mise dans l'au-delà de l'unité des dieux avec, avec sa moitié sponsale. Et patatra. Alors, dans les jours du péchôme, dans lesquels nous sommes, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la sponsalité surnaturelle à créer. Si on ne sait pas ce que c'est que la transactuation surnaturelle sponsale, eh ben, ce sera comme Capharnaüm. Si on ne sait pas ce que c'est que l'oraison, dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, dans mon corps spirituel venu d'en haut, avec, voilà, eh bien, ce sera Kafan, ce sera Bedside. Oui. Et bien sûr, le monde est condamné, d'accord, le monde est condamné, mais il ne faut pas oublier que les enfants de Dieu, c'est marqué dans l'Apocalypse, obtiennent quand même une victoire mais écrasante sur Babylone, sur l'Antichrist et sur Satan, dès cette terre. Et ce sera ça le cinquième saut de l'Apocalypse. C'est pour ça que le règne du Sacré-Cœur va se répandre dans le monde entier. Donc, c'est pas parce que la malédiction tombe sur toutes les cités, toutes les familles et l'humanité toute entière, que du coup on est dans le désespoir. Au contraire, on dit c'est génial. Vite, courons, volons vers le monde nouveau. Et pour ça, on a besoin, c'est évident, de ce tritium du monde angélique. Et c'est important, vous savez, moi, c'est important ce que nous faisons, ce que nous allons faire ensemble, même on est une douzaine, t'as bien. C'est bien mieux que si on avait été 1200. C'est beaucoup mieux, parce que c'est... Parce que vous savez, quoi, c'est l'année, comme c'est l'année de gens. Bien sûr, il ne faut pas faire la théologie des chiffres, je veux bien. Mais c'est quand même l'année de Saint-Michel Archange, 2011. C'est l'année de Saint-Michel Archange, c'est la fête de Saint-Michel Archange. Il faudra attendre je ne sais pas combien de générations et de générations avant qu'on ait une année de Saint-Michel Archange avec la fête de Saint-Michel Archange. C'est vraiment ces trois jours-là sont où on avait voulu partir en Allemagne. Bon, on est cloué sur Nîmes, c'est très bien. C'est parfait. Mais il y a une attente du ciel sur les enfants de Dieu de l'Église. Et il en a choisi 72 aujourd'hui. Il en a choisi 72. Parmi 72, il y en a... 72, ça désigne Marie, hein, vous savez ça. Puisqu'elle a vécu 72 ans. Hein. Quand vous voyez les disciples, tout de suite, dit 72, ça c'est... C'est celui qui pense à Marie, et à travers Marie, tous ses disciples de tous les temps et tous les lieux. Et les apôtres, c'est la succession apostolique, c'est... C'est son union apostatique déchirée, présente jusqu'à la fin du monde. Soit 72. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi 72 milliards. Ni 7 milliards, 200 millions. Non, non, il a choisi. Ni 720 millions. Non, non. Pourtant, on est à l'époque où Jean-Paul II est devenu pape. Il y avait seulement 729 millions de catholiques sur la Terre. Quand il est mort, ça faisait 1 milliard 200 millions quand même, 50% de plus de baptisés catholiques. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi, comme ça. Bon, eh ben, c'est pas par million, non. Il faut comprendre que Marie est toute seule. Saint Jean, il est tout seul, Saint Jean. C'est quand même impressionnant. Parce qu'on est, nous, on est un peu dans la situation de Saint Jean. Il est tout seul. Marie est emportée, et la lumière surnaturelle de la foi, c'est lui qui la porte. La lumière surnaturelle de la foi, immaculée de l'Église, c'est lui qui porte ça. Plus de 40 ans tout seul. 40 ans tout seul. Saint Jean, pas d'épître, hein? Et puis au bout de 40 ans, on le prend. Et on le plonge dans l'huile bouillante. C'est charmant. Voilà, c'est beau ça. Et puis, comme il avait mis en place son corps spirituel, 40 ans, il a eu le temps, hein, je peux vous le dire. Donc il n'a pas brûlé. Et donc sa peau était toute. Même si elle avait été déchirée par les flagelles, son corps était tout déchiré. Son corps, son vieux corps. Voilà. Et du coup, on l'a mis à Patmos et il a reçu l'Apocalypse. Le ciel s'est ouvert. Le ciel de Marie ressuscitée s'est ouvert. Le ciel de Joseph ressuscité s'est ouvert. Le ciel de Jésus ressuscité s'est ouvert. Le ciel de l'unité sponsale glorieuse de Marie et Joseph s'est ouvert. Le ciel de l'unité indissoluble de Jésus, Marie et Joseph s'est ouvert. Enfin, voilà les 5 ciels qui se sont ouverts dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse nous a été donné. Et quand il s'est endormi dans son tombeau, 1 heure après, son corps n'était plus là. Le corps de Jean n'était plus là. Et Jésus l'avait dit, si je désire qu'il demeure jusqu'à mon retour dans la gloire. Donc on est dans la situation de Jean. Il faut comprendre ça. On est les enfants de Marie. Il a été immergé pendant ces 22 années de la transformation spirituelle, du corps spirituel, de l'Immaculée Conception, jusqu'à ce qu'elle soit en infinité, tachyonique, si vous voulez, anastasique, avec le corps ressuscité de Jésus et de Joseph. Petit à petit comprendre qu'il y a cette espèce de... Voyez, on dit toujours, mais Jésus, Marie, Joseph, pourquoi est-ce que Jésus, Marie, Joseph, Jésus, Marie, Joseph, ça fait gnangnan. Ça fait gnangnan quand même, hein. Allez voir à votre curé, allez voir votre pasteur. Il y a des pasteurs à Nîmes, j'en suis sûr qu'il y a des pasteurs à Nîmes. Dis, je vais vous donner j'ai découvert Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Mais où est-ce que tu es tombé, toi? Et tu vas sortir de un regard de mépris, ou alors un éclat de rire inouï. Je suis pas psychotique. l'unité dans la très sainte Trinité. Et nous nous levons avec la puissance de la très sainte Trinité et la confession de l'unité du Créateur du monde. Et Dieu fait tout être nom, poids et mesure dans l'unité de proverbe. Donc si l'union hypostatique de Jésus établit la deuxième personne de la très sainte Trinité dans la gloire, et qu'il a dit « je ne fais rien que je n'ai vu faire à mon Père », c'est forcer qu'il soit trois personnes dans la chair, dans une seule nature glorieuse de résurrection. Sinon, c'est... Et puis en plus c'est dans l'Écriture. Et puis en plus c'est la doctrine infaillible de l'Église, alors comme ça on est content. Et donc, quelque part, Dieu le Père, dans le corps spirituel originel et le corps spirituel de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle. Il y a une unité, si vous voulez, indivisible entre la Jérusalem spirituelle et la Jérusalem glorieuse et la très sainte Trinité dans l'unité. Cette indivisibilité de l'unité concrète de la lumière vivante, de cette unité indivisible, est notre lieu, nous nous engloutissons dedans. Et donc, forcément, ça ne peut pas être autrement. Jésus a dit, je ne fais rien que je ne vois faire à mon Père. Alors nous sommes là pour ça, parce que du coup, le monde angélique peut prendre possession, peut rentrer, peut faire de cette, peut réaliser avec son mode spirituel d'amour, de lumière et de sainteté pour qui lui est propre, peut faire que cette indivisible unité de l'union apostatique de glorieuse de toute la résurrection et de toutes les hypostases dans l'unité de la très sainte Trinité éternelle puisse avoir cette amplitude, cette myriadisation. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour. Le Père, notre Papa, a été blessé par le mal. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour le Père. Et c'est dans cet abîme qui a été inscrit dans la paternité de Dieu, que s'inscrit tout le miracle des trois éléments pour l'éternité des éternitaires. Il faut beaucoup d'amour pour le Père. C'est pour le Père uniquement qu'on est là, et là, il y a que... Et on est là pour ça, et on est très heureux d'être là pour ça. C'est vrai que le monde ne nous fait pas penser à ça. Mais c'est pour ça qu'on prend de temps en temps une petite boule d'oxygène pour sortir de l'esprit de ce monde et rentrer dans le monde nouveau. Parce qu'on oublie vite. Hein. Qu'est-ce qu'on va battre dans la déchéance par rapport à la foi, par rapport à l'enseignement des apôtres? Qu'est-ce qu'on va battre par rapport à Saint Jean? Mais c'est fou, depuis 2000 ans on n'arrête pas d'aller de plus en plus loin, de plus en plus bas, de plus en plus loin de Jésus. Qu'est-ce qu'on est loin? Ouais. un jour, on disait ça, ça intéresse l'enfant Jésus, mais là, si je comprends bien, une petite novice qui dit, mais si je comprends bien, ben, vous... Oh, non, c'était pas une petite novice, c'était une professe perpétuelle, qui dit, mais si je comprends bien, vous estimez, Sœur Thérèse, que... Vous estimez, Sœur Thérèse, que vous êtes la seule, quoi, dans le monde, à tenir... Elle n'avait pas dit ça comme ça, elle dit, mais alors, mais finalement, vous êtes la seule, dans le monde entier, dans l'Église, à tenir ça, à tenir. Le fil de l'Église tenait avec une seule, une personne. Le fil de l'Église tenait avec uniquement une personne dans l'Église. Elle dit, mais... Alors, elle n'a pas dit, non, 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 je ne suis pas la seule. Non, elle a dit, on va chanter le Magnificat, hein, c'est drôlement bien ça. On est les seuls. Elle a pas dit, c'est pas vrai. Elle a dit, on va chanter le Magnificat. Elle a dit, non, 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 non. Non, c'est pas pour moi. C'est pour moi le monde nouveau. Non, non, je préfère rester chez calviniste. On est prédestiné à rester calviniste. Ah bon, on est prédestiné. On est prédestiné à être les membres vivants du corps mystique vivant, du je suis vivant. Voilà. Alléluia.
Alléluia.
J'essaie d'être le plus long possible pour que ceux qui ne sont pas encore réveillés viennent, mais je vois qu'ils sont profondément endormis dans leur lit. Alors, on va continuer. Merci.